France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Après plus d'un demi-siècle de dictature Assad et 14 ans de guerre, la chute du pouvoir le 8 décembre dernier fait espérer que les auteurs des crimes de la dictature et de la guerre seront punis. Mais comment récolter les preuves qui les accablent? Comment les conserver? Comment mener des enquêtes et quelle justice espérer? Pour en discuter, pour en débattre également, trois invités ce soir. Céline Bardet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste et enquêtrice criminelle internationale, spécialiste des crimes de guerre. Vous êtes la fondatrice et directrice de l'organisation non-gouvernementale appelé We Are Not Weapons for War. Avec vous également Luc Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes reporter à Libération, prix Albert Londres 2015 pour votre série d'articles sur le djihad réalisé en Syrie, au Kurdistan et en Irak. Vous étiez en Syrie également en décembre dernier avec nous. Et à distance, Robert Petit, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef du mécanisme international impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes et de recueillir les preuves des violations les plus graves du droit international en Syrie. Merci beaucoup à tous les trois d'être présents ce soir dans Question du soir.
J'ai été à la prison de Sednaya, à l'hôpital de Al-Mujahid. J'ai été à Arasta, j'ai été partout. Maintenant, on m'a dit qu'il y avait des pièces d'identité et qu'il fallait que je jette un œil, donc je suis là. Je cherche depuis ce matin, mais je n'ai toujours rien trouvé.
Il y a de nombreuses bases de milices iraniennes dans cette zone sur la route menant à l'aéroport international de Damas. Ce sont probablement ces bases qui ont perpétré ces massacres et elles tentent à présent de dissimuler les preuves et les indices qui les désignent.
Mon frère a été emmené par l'armée de l'air il y a 11 ans, sans aucune accusation contre lui, devant notre porte. Maintenant, ce sont tous des cadavres brûlés et des corps avec la tête coupée. Voilà, c'est ça le régime qui nous dirigeait.
Et le corps de votre frère?
Nous ne l'avons pas trouvé.
Des témoignages recueillis par TV5 Monde, c'était le 13 décembre dernier. Céline Bardet, lorsqu'on tente de recueillir des preuves dans un pays qui a été accablé par 14 ans de dictature, comme c'est le cas pour la Syrie, quel est le premier adversaire aujourd'hui? Est-ce que c'est le temps qui s'écoule ou bien autre chose?
Bah déjà, c'est bien entendu le temps qui s'écoule, mais c'est aussi même, je pense, plus de 14 ans, parce que c'est tout un régime qui s'est étalé sur des décennies. Et donc, bien sûr, il y a une question de temps, et il y a une question aussi, là, j'étais très marquée par le reportage, parce que il y a la question aussi de l'État. Comment on fait, en fait, quand on retrouve des corps entièrement mutilés, détruits? On peut pas faire d'analyse médicale, on peut pas. Donc tout ça, c'est effectivement très compliqué.
Robert Petit, cette question du temps qui passe, est-ce que vous qui travaillez depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant justement sur la façon dont on peut récolter ces preuves, est-ce que ce temps est votre ennemi ou au contraire il vous permet d'approfondir des enquêtes, d'aller plus loin dans votre travail?
Ben, c'est deux choses séparées. Un, le temps est l'ennemi de la préservation de la preuve parce que s'il n'y a pas un effort concerté de la préserver, elle disparaît. Maintenant, une fois effectivement préservée et suite à l'analyse, oui, ça nous permet de développer une expertise, une compréhension structurelle des crimes.
Ce travail-là, il faut le préciser, Robert Petit avait commencé bien avant que le régime ne tombe. Par quoi on commence? Où est-ce qu'on commence lorsqu'on tente de trouver justement ces preuves qui accablent les criminels liés au régime Assad?
Bon, notre mandat débute mars 2011 et focusé donc sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, violations sérieuses de droits humanitaires et pénal. Lorsqu'on parle d'un État qui a commis ces crimes-là, on parle d'un État qui s'est servi de tous les moyens étatiques pour le faire. Donc, théoriquement, toute la preuve générée par une telle bureaucratie est pertinente. Maintenant, le défi, ce n'est pas de trouver la meilleure preuve, mais la meilleure de cette preuve-là. Et donc, pour ça, ça prend une analyse structurelle pour bien comprendre comment se sont déroulés les crimes et où est à même de se retrouver là, ces éléments-là essentiels.
Ce qu'il faut peut-être aussi préciser, Robert Petit, c'est que des preuves, vous en avez accumulé des milliers, des dizaines de milliers. Vous avez déjà une masse d'informations considérable et accablante.
Et il faut dire que cette masse d'informations, C'est en grande partie dû aux Syriens eux-mêmes et aux associations qui, depuis le début, là, ont documenté leur victimisation, souvent au prix de leur propre vie. On a dit, au moins avant le conflit sur l'Ukraine, que la Syrie était le crime de masse le mieux documenté de l'histoire. Et c'est effectivement grâce en grande partie à ces acteurs syriens-là qu'on a pu accumuler ces éléments-là. Maintenant, on a accès potentiellement à la meilleure preuve à l'encontre des architectes, de ceux en fait qui sont responsables de tout ce qui s'est déroulé comme crime depuis mars 2011, parce que c'est la réaction du gouvernement aux manifestations pacifiques des Syriens qui a rendu possible tout le reste. Donc, on a maintenant accès à une immense ressource pour effectivement tenir en compte les principaux responsables.
Il faut dire tout de suite, Luc Mathieu, que ce travail justement qui consiste à glaner des preuves contre le régime d'Assad, il est d'abord et avant tout mené par les Syriennes, par les Syriens eux-mêmes et pas toujours par des organisations internationales ou extérieures à la Syrie, comme on en a parfois l'impression vue d'ici.
Non, quand j'étais là en décembre, juste après l'exil forcé de Bachar el-Assad, en fait, il y avait personne. Il y avait l'ONU, mais l'ONU n'agissait pas. Et l'ONU a un gros problème d'image, pour le dire gentiment, auprès des Syriens, puisqu'ils sont là depuis le début. Et ils disent, Ahmed al-Sharaa, le nouveau président maintenant syrien, parle très peu de l'ONU dans ses discours officiels. Et quand il en parle, il en a peut-être deux fois, il a dit, ils n'ont pas sorti un seul prisonnier syrien durant toutes ces années. Donc il y a une vraie défiance vis-à-vis d'eux. Et il y a aussi le CICR, donc c'est a priori aussi le travail, puisqu'il se travaille sur les prisonniers. Et
le CICR, c'est le Comité international de la Croix-Rouge.
Le Comité international de la Croix-Rouge, qui a une antenne à Damas. Et je les ai appelés assez vite quand j'y étais, parce que en allant, il y avait plein de journalistes, on allait à Sednaya, et il y avait là des milliers de familles qui se succédaient pour chercher, juste pour savoir si leur père, leur frère, leur oncle, leur mari étaient passés par là, et étaient morts là-bas ou morts ailleurs. Et il y avait des documents partout, c'est-à-dire qu'on marchait littéralement dessus, dehors. Et il y avait des documents qu'on peut juger anecdotiques, comme des listes de fournitures pour la cuisine, enfin, des choses comme ça. Mais il y avait aussi des espèces de feuillets où il y avait le nom, l'âge, l'adresse, la date d'entrée dans la prison, la date de sortie dans la prison. Et après, il y avait parfois écrit en rouge « mort à l'hôpital militaire deux jours après ». Et donc là, la famille qui tombe là-dessus, au moins elle sait. Mais là, ces trucs-là, en fait, littéralement volés au vent, dehors. Et donc, il y a des jeunes Syriens qui sont organisés tout seuls via des réseaux sociaux, via des amis d'amis. Et ils sont allés sur place, ils ont pris des sacs poubelles, et ils ont pris des photos et mis les documents dans des sacs poubelles. Et donc, le CICR, je leur ai dit, mais pourquoi vous y allez pas vite? Et alors, ils m'ont dit, on a été le premier jour à Sednaya. On est tombé, effectivement, sur des pièces remplies de classeurs, parce qu'ils classaient tout, tout était archivé, avec plein de documents essentiels pour les familles. Et éventuellement, par la suite, pour des procès, mais déjà pour les familles. Et en fait, comme bon, c'est pas un État, enfin c'est un État, mais il n'y avait pas de pouvoir élu représentant officiellement, eux n'avaient pas vraiment un mandat, donc ils ont demandé à quelqu'un de garder les documents la nuit, puis en fait les familles sont rentrées, ont fouillé. Alors elles font pas ça du tout pour détruire, mais simplement elles cherchent un nom.
Céline Bardet, qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche une preuve? Est-ce qu'on cherche d'abord une masse de preuves, c'est-à-dire pour créer, j'allais dire, un faisceau concordant qui t'indique que le régime d'Assad est coupable, ou bien on cherche là aussi la preuve accablante, une preuve parmi d'autres?
En fait, ça dépend aussi des contextes, et ce qui a très bien été souligné là juste avant par Robert Petit, c'est-à-dire que là, on est quand même dans un mécanisme d'État, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et donc là, il y a toute une bureaucratie, il y a tout un mécanisme, en fait, parce que c'est ça quand même, c'est un mécanisme qui a été mis en place et qu'on voit très bien avec l'ouverture des prisons. Et aussi, tout était organisé sur des papiers, des documents, etc. C'est tous ces éléments de preuve-là qu'il faut regarder, c'est toutes les preuves qui peuvent permettre d'établir la mise en place, quoi, le mécanisme criminel ou d'anéantissement d'une partie de la population syrienne, c'est ça. Après, dans d'autres contextes, c'est différent. On va être sur des choses parfois plus petites ou plus ciblées, où là, évidemment, on va devoir identifier, je sais pas, le nombre de personnes qui ont été tuées ou violées, et avoir des éléments matériels, soit médicaux, soit de photographie, etc. Là, je pense qu'on a beaucoup de choses. Mais une chose que je voulais rajouter sur le fait, la singularité aussi, je sais pas si je peux employer ce mot, mais de la question de la Syrie, c'est qu'effectivement, il y a cette l'exil, je vais nommer le terme, forcé de Bachar el-Assad, et qu'on se retrouve, même s'il n'y a peut-être pas une forme de chaos comme celle qu'on a pu voir en Libye après la disparition de Kadhafi, on est quand même dans un moment d'émotion totale, une population qui sort de ça, dont l'obsession est tout à fait normale, va être de savoir ce qui s'est passé pour leurs proches. Donc ça, c'est un passage qui est compliqué si on n'a pas à côté un gouvernement ou une autorité qui va donner priorité à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les autorités, nouvelles autorités syriennes, je ne sais même pas comment on peut les appeler, c'est pas du tout leur priorité, je crois, à la question de la justice.
On va y revenir, c'était une partie justement du discours du nouveau régime. Mais avant cela, Robert Petit, je voudrais qu'on parle de la variété des crimes dont on parle. Il y a les crimes liés à la torture, il y a les violences sexuelles, il y a les meurtres. Là aussi, comment on traite, selon les différents cas, le type de preuves que vous récoltez ?
Si on parle d'auteurs indirects, pas nécessairement des bourreaux ou des exécuteurs, mais de ceux qui les ont commandés ou de ceux qui étaient plus loin dans la hiérarchie, c'est d'abord établir la connaissance et la responsabilité pénale. Donc, il faut établir une chaîne entre le crime lui-même et cet individu-là, cette personne-là ou ce groupe-là. Et le tout, comme je dis, passe vraiment par une enquête structurelle qui permet une compréhension holistique de la façon dont se sont déroulés les crimes. Tous les éléments peuvent être mis en jeu, mais il est essentiel aussi que le témoignage des vivants, des survivants et des victimes aussi soit central à toute procédure pour leur donner une voix.
L'autre point fondamental, Céline Bardet, c'est évidemment la chaîne de responsabilité. Si on prend un exemple sur lequel vous avez énormément travaillé, la question des violences sexuelles, dans ce domaine-là, la chaîne de responsabilité, c'est un enjeu absolument majeur.
Bien sûr, c'est un enjeu absolument majeur, notamment sur la question des violences sexuelles, quand on veut montrer que, justement, quelque part, c'était pas des incidents isolés, mais ça fait partie de la mécanique de la constitution d'un crime international, que ce soit un crime contre l'humanité ou génocide. Donc effectivement, soit on regarde la question de la responsabilité de commandement, où là c'est plus compliqué parce que pour faire simple, en fait, il y a ceux qui exécutent les crimes, c'est-à-dire ceux qui ont le sang sur les mains, et il y a ceux qui les commanditent et qui les mettent en place. On va pas chercher les mêmes éléments de preuve, et pour les responsabilités de commandement, c'est ce qui est plus difficile parce qu'il va falloir prouver la responsabilité de la personne en haut, j'ai envie de dire, assise dans son bureau, qui a permis que tout ça se mette en place. Donc bien sûr, et pour les violences sexuelles, c'est évidemment ultra important parce qu'on a encore une tendance aujourd'hui à penser que, il y a des conflits, oui, d'accord, il y a des violences sexuelles, parce que ça arrive, et ça va pas plus loin que ça, alors que la plupart du temps, les violences sexuelles, elles sont part entière de la mécanique, de la politique des crimes qui sont commis.
Sur cette question de la justice, je voudrais vous faire entendre la voix d'Ahmed Al-Shara lors de son premier discours tenu à Damas, un son recueilli par TV5 Monde également.
Nous travaillerons à la formation d'un gouvernement de transition inclusif qui reflète la diversité des hommes, des femmes et des jeunes de Syrie et à la mise en place des institutions d'une nouvelle Syrie jusqu'à ce que nous atteignions le stade des élections libres et équitables. Dans la période à venir, nous nous concentrerons sur les priorités suivantes: instaurer la paix civile et poursuivre les criminels ayant versé le sang syrien, qu'ils soient cachés à l'intérieur du pays ou qu'ils aient fui à l'étranger, par le biais d'une véritable justice transitionnelle.
Luc Mathieu, que faut-il comprendre lorsque ce nouveau régime syrien parle de justice transitionnelle ? Que faut-il comprendre et que faut-il attendre par ailleurs ?
Le problème, on a dit, pour l'instant, c'est qu'ils n'ont pas du tout les moyens de s'attaquer à ce dossier-là. C'est-à-dire qu'ils ont pris Damas et donc la Syrie. Ils ne l'avaient pas prévu, ils ne sont pas aussi nombreux que ça. On parle de 20 000 hommes pour le groupe HTS, qui est dirigé par Jolani. Donc ils ont quantité de dossiers à régler depuis la sécurité, enfin la base pour s'assurer que ça parte pas en guerre civile ou en affrontement, etc. Ils ont toutes les relations diplomatiques. Donc toute cette question de la justice, en fait, ils voudraient le faire, je pense. Ils ont intérêt à le faire, ils veulent le faire, parce qu'ils savent que les Syriens le veulent. Le problème, c'est qui va le faire pour eux ? Moi, quand j'y étais, par exemple, sur cette question des prisons, notamment souterraines secrètes ou des fosses communes, c'était les casques blancs qui s'en occupaient. Ils s'en occupaient parce que c'était les seuls à le faire. Et le casque blanc, c'est une organisation syrienne. C'est des volontaires. Ils sont payés une centaine de dollars par mois. Ils sont pas médecins légistes. Mais ils le faisaient et, en fait, ils ont été surpris eux-mêmes par l'ampleur de la tâche. C'est-à-dire qu'on connaissait la machine de mort syrienne, c'est ultra documentée par des ONG, tout le monde a eu des témoignages. Mais je pense que l'ampleur a été significativement supérieure, en fait. C'est-à-dire que on avait localisé à peu près 3 fosses communes via des images satellites dans la région de Damas. Là, de mémoire, ils sont à 5 ou 6. Et moi, ils venaient d'en trouver une quand j'étais avec eux. Ils m'ont dit, il faut pas qu'on le dise aux familles, parce que sinon les familles vont venir et elles vont commencer à fouiller elles-mêmes les trucs, les faux, ça va contaminer les preuves. Mais qui pour faire les analyses? Il y a des cas, par exemple, moi j'ai vu dans des morgues d'hôpitaux à Damas, ou dans l'une d'elles, où il y avait peut-être une trentaine de corps qui étaient dans les frigos, enfin frigos qui marchaient à peine d'ailleurs, des corps en état déplorable. Il y avait des familles sans arrêt qui venaient, et à un moment, j'entendais quelqu'un crier, donc j'étais voir, et c'était une mère qui parlait à une infirmière qui était chargée de gérer la morgue, mais qui en fait pouvait pas, enfin c'était une volontaire aussi. Et la mère disait, ça fait 3 jours que je viens, ça fait 3 jours que je vous dis que c'est mon fils qui est dans tel frigo, et vous voulez pas me le rendre. Et elle dit, je l'ai reconnu, il a aussi une marque sur le poignet, etc. Et l'infirmière disait, écoutez, le problème, c'est qu'il y a une autre famille qui est venue, et qui a aussi reconnu la marque. Et moi, je peux pas vous donner le corps, parce que je sais pas à qui il est. Et bien sûr, dans ce cas-là, il faut l'ADN, mais là, il y a personne pour faire l'ADN. Donc, il y a toute cette ampleur énorme. Enfin, on parle de 150 000 disparus, mais c'est probablement plus. Puis c'est à l'échelle du pays, en plus. Et c'est ce que vous disiez aussi au début, c'est-à-dire que c'est pas que le régime Bachar al-Assad, c'est aussi Hafez, le père. Et ils ont retrouvé des prisonniers qui étaient là depuis 40 ans, quand même, dans des prisons. Ouais. Et donc, c'est monumental. Et là, il faut une organisation très précise, très scientifique. Mais ils n'ont pas cette organisation. Parce que...
Robert Petit, est-ce que ce témoignage corrobore un peu ce que vous vivez au quotidien? C'est-à-dire que vous-même, peut-être avant que ne tombe le régime de Bachar al-Assad, vous ne mesuriez peut-être pas non plus l'ampleur de la tâche qui allait surgir subitement?
Pas vraiment, parce que ça fait quand même depuis 2016 qu'on est à la documenter, à l'enquêter et à bâtir des dossiers pénals. Donc, non, on avait quand même une idée de l'ampleur. D'ailleurs, 2 jours avant la chute du régime, on a publié notre premier rapport public, parce que ce n'est pas généralement quelque chose que l'on fait. On était quasi-parquet, on n'est pas un organisme de publication, mais on a publié un rapport sur les centres de détention, sur certains des centres de détention, qui en a dénombré plus que ça, avec la plupart des fosses communes attenantes. Donc, non, on a une bonne compréhension et des éléments pour la soutenir.
Et est-ce que vous êtes d'accord, Robert Petit, avec Luc Mathieu, lorsqu'il explique que le régime aujourd'hui n'est pas armé, n'est pas prêt justement pour mettre en place cette justice transitionnelle qu'il appelle pourtant de ses voeux?
C'est clair qu'ils sont en train d'effectivement essayer de prendre le contrôle de l'appareil étatique, de le bâtir d'abord, de prendre le contrôle du pays, de ce qu'ils peuvent. Donc, c'est clair qu'il y a beaucoup de priorités. Ils sont sollicités par différentes priorités. Ils ont conscience qu'il doit y avoir effectivement un processus de justice. Ça va être à eux, aux Syriens, de le définir avec le support de la communauté internationale. Je pense qu'effectivement, ça va faire partie des décisions. Et quant à nous, on espère pouvoir y contribuer dans la mesure où on va avoir finalement l'autorisation de se mettre sur place.
Céline Bardet, comment vous l'interprétez, vous, cette expression de justice transitionnelle qu'on vient d'entendre, proférée par le représentant du nouveau régime syrien? Ce n'est pas neutre, dans l'histoire des conflits, dans l'histoire des preuves de guerre, cette expression-là, celle de justice transitionnelle?
En fait, la question de la justice transitionnelle, elle participe aussi à l'idée de une forme de je sais pas si c'est le bon terme, de réconciliation de la société. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'est passé quelque chose, on s'assoit tous et on documente ce qui s'est passé, on en parle, c'est ça, je résume un peu de façon très simpliste, mais l'idée de la justice transitionnelle, je pense qu'elle est intéressante dans le fait qu'il l'évoque comme ça. Et juste quand même, pour parler de la justice, il y a eu une arrestation je crois que c'est un cousin de Bachar el-Assad qui a été arrêté à l'attaquer. Donc et c'est assez intéressant parce qu'on sait qu'au tout début il y a eu des lynchages, enfin il y a des gens qui ont été exécutés, je pense que ça a été un petit peu couvert, mais il y a quand même eu des règlements de compte et tout. Là, il a été arrêté par les autorités et tout. Donc je dis ça parce que ça souligne quand même un petit peu cette idée de dire, de se positionner quand même en disant ok, on arrête les gens qu'on considère responsables et on va peut-être travailler sur la justice. Mais la question de la justice transitionnelle, elle est importante. Et là, elle est d'autant plus quand on entend Luc Mathieu sur ce qu'il dit, mais moi, pardon, je pense beaucoup à la Libye aussi, et je pense aussi à l'Irak, c'est-à-dire qu'il y a un moment, tout ça tombe, la population, il y a une émotion énorme, on l'a tous vu aussi, le nombre, faut aussi souvenir du nombre de Syriens qui ont quitté la Syrie, qui sont réfugiés partout, qui aujourd'hui, pour certains, rentrent et tout ça. Et donc, comment on répond à cette population qui, elle, cherche, je trouve que l'histoire du fils, là, qu'on reconnaît, enfin, c'est horrible. Moi, je l'ai vécu en Bosnie aussi, ça. Mais, effectivement, en Bosnie, il y a eu rapidement un système mis en place par la communauté internationale pour leur apporter les moyens en expertise, etc., de faire ça. Là, la question, c'est effectivement celle de savoir qu'est-ce que va faire la communauté internationale. Et pardon, cher Aminatou aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est la question aussi de la relation que vous avez très bien évoquée par rapport aux Nations Unies, où il y a quand même une défiance. Et que là, je pense que c'est important aussi aujourd'hui, parce que moi, je pense qu'on doit aider, enfin, je suis pas la seule, j'espère bien, mais je veux dire, on doit aider les Syriens, et on a d'autant plus une dette, quand je dis nous, mais la communauté internationale, enfin, sur l'incapacité qu'on a eue, l'incapacité pour eux que la Cour pénale internationale soit saisie. Donc, je veux dire, tout ce conflit, il était un peu dans les limbes, même au niveau de la justice. Donc aujourd'hui, on doit ça, et je pense que si c'est pas forcément par un mécanisme des Nations Unies, ça doit être aussi par d'autres mécanismes. Qu'est-ce que font les États? Nous, on attend. Nous, par exemple, on est prêts à aller travailler, mais je suis pas la seule ONG. Donc, il faut que les États, ils se mobilisent aussi pour faire, effectivement, ce travail-là, ou ce que Robert Petit disait aussi, la question des témoignages. Et je reviens sur l'histoire de la pollution, des ce qu'on appelle, nous, la pollution des éléments de preuve. Les témoignages, ils sont super importants. Il faut pas attendre 1000 ans pour les prendre. Il faut les prendre dans des conditions. Donc, tout ça, il faut que ça soit fait, et il faut les aider là-dessus. C'est super important. Et moi, j'ai pas peut-être une fausse impression, hein, mais j'ai pas l'impression qu'on soit complètement dans un mécanisme comme ça. Tout le monde s'est réjoui de la chute de Bachar al-Assad. Tout le monde a regardé, tu vois, les vidéos en disant là, c'est très émouvant et tout. Qu'est-ce qu'on fait là? Ben, en fait, pour moi, c'est pas très très clair.
Luc Mathieu, alors justement, pour tenter de clarifier ensemble la question qui est posée en creux, c'est celle du cadre pour rendre cette justice. On dit beaucoup, on entend beaucoup, sans doute à raison d'ailleurs, que cette justice doit être menée, organisée, rendue par les Syriens. Or, vous nous dites que ça ne peut pas être la priorité aujourd'hui, que les Syriens n'en ont pas forcément les moyens. Alors, quel est le bon cadre, Luc Mathieu, justement, pour organiser cette justice? Est-ce que le bon cadre est international? Est-ce que d'autres États doivent s'en saisir?
De toute façon, il faudra d'autres États, parce que la majorité quand même des caciques du régime de Bachar al-Assad sont à l'étranger, ils sont plus en Syrie. Enfin, le premier d'entre eux, il est à Moscou. Beaucoup sont aux Émirats, à Dubaï. Certains sont au Liban. Donc il va bien falloir aller les chercher un moment ou un autre, ou se les faire remettre, je sais pas comment on dit juridiquement, mais et après il faut des tribunaux. Alors beaucoup de Syriens disent il faut les juger en Syrie, parce que c'est là où ils ont commis des crimes. Mais après, c'est des questions juridiques. Pour l'instant, il y a un gouvernement transitoire, enfin provisoire. Donc, ils vont écrire une nouvelle constitution. Ça va prendre minimum 2-3 ans quand même. Après, ils veulent mettre des élections. Donc, quel juge? Enfin, ça pose des questions comme ça. Après, je sais pas si la CPI pourrait être saisie a posteriori. Enfin,
la Cour pénale internationale, on va poser la question à Robert Petit. Ouais. Est-ce que la CPI, Robert Petit, peut jouer un rôle justement dans ce travail de justice?
Ben, si vous permettez, avant, je vais revenir un peu en suivi. Quant à moi, et évidemment, on suit les choses assez près, je pense qu'il y a certainement une conscience auprès de la communauté internationale de manière générale, et surtout des États qui sont des États de la région et des États qui sont plus impliqués, qu'il y a des besoins énormes et que la justice transitionnelle fait partie de ces besoins-là et qui donc sont prêts à le soutenir. On a effectivement, c'est relativement tôt dans le processus, mais je pense que tout le monde est conscient, et de toute façon, comme je le disais, les Syriens eux-mêmes le demandent et n'oublieront jamais et ne renonceront jamais à cette justice. Maintenant, la forme que ça peut prendre, encore là, c'est à eux de définir. Et dans mon expérience, ça peut être complètement différent d'un contexte à l'autre. Par exemple, au Rwanda, ils ont jugé à travers le phénomène de Gacaca d'1,2 million de dossiers, d'individus. D'autres, comme le Cambodge, pendant 40 ans, avaient choisi d'enterrer le passé. Et finalement, c'est un tribunal, une chambre extraordinaire qui a été créée. Il y a une myriade de façons de définir ce que la justice est pour un peuple. Et ça peut prendre la forme, oui, la CPI peut avoir un rôle, mais il faudrait pour ça soit qu'un des États membres, des États parties la réfère, ou que la Syrie adhère à la CPI, au statut de Rome. Et je le rappelle, la CPI a une juridiction très focussée. Elle a une juridiction, par exemple, en Libye. Je pense qu'il y a 3 dossiers à date depuis 13 ans. Donc, c'est des enquêtes très longues qui ne ciblent que certains individus. Ça peut faire partie certainement de la solution, mais il va y avoir beaucoup d'aspects que les Syriens devront considérer avant de prendre des décisions, avec un peu de chance, par consensus.
Céline Bardet, vous sembliez vouloir réagir le sujet de la Cour pénale internationale.
Ouais, non, mais je réagissais sur la Cour pénale internationale, parce que juste peut-être pour que tout le monde comprenne bien, aujourd'hui la Cour pénale internationale n'est pas compétente sur les crimes en Syrie, ce qui a été toute la question. Il y a eu, comme vous le dites bien Robert Petit, il y a des États qui ont référé, qui ont fait des résolutions pour essayer que la Cour pénale internationale puisse être saisie. Ces résolutions ont été bloquées, soit par les Russes, soit par la Chine. D'ailleurs, suite à l'histoire de la Libye, qui a été aussi référé et qui a permis que la Cour pénale soit compétente. Après, là je rejoins, c'est qu'effectivement, ce serait intéressant de voir, par exemple, si la nouvelle Syrie, si je puis dire ça, décidait de devenir partie à la Cour pénale internationale, ce qui serait aussi un signe comme ça de dire on rentre dans ce système de justice pénale internationale. Mais bien sûr, il y a plein de formes de justice. Moi, je pense à quelque chose, parce que ce qui était dit aussi, c'est que la question, même si aujourd'hui on imaginait mettre en place un système législatif, il faut pas oublier, c'est là où je pense que la Syrie c'est quand même très singulier, parce que il y a eu tout un mécanisme qui a été fait, conduit par, j'allais dire, la famille Assad, avec toutes les personnes qui étaient juges, qui avaient des postes un peu importants au niveau sociétal. C'était des gens de la minorité alaouite, beaucoup, etc. Donc tous ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? C'est pas ces gens-là qui vont mettre en place le mécanisme de justice. Donc il y a tout un travail aussi à faire autour de ça. Et qu'est-ce qu'on fait aussi? Bien sûr, les responsables, comme c'était dit, qui sont à l'étranger, tout ça, il y a tout ce travail-là, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des gens qui vont croiser demain, mais c'est des choses qu'on a déjà vues en Bosnie, en Irak, partout, qui vont croiser aujourd'hui dans la nouvelle Syrie, croiser peut-être au coin de la rue, enfin peut-être qu'en ce moment ils se cachent, mais celui qui a été le gardien de la prison dans lequel ton fils et ton mari se trouvaient. Je veux dire, c'est un peu tout ça, la justice transitionnelle aussi. C'est comment on fait, en fait. Comment on fait? Il n'y a pas que la question des responsables, où c'est hyper important et où effectivement le mécanisme a fait un travail déjà ultra important. C'est au niveau de la population. Comment on fait? Comment on établit les responsables? Responsabilité de chacun, et comment on fait que ces gens revivent ensemble. Ça, pour moi, en fait, c'est la question qui est certainement la plus importante aujourd'hui.
Et c'est pas juste la question donc de la justice institutionnelle, mais donc de la société tout entière, tenter de comprendre justement comment ces communautés, ces gens, ces Syriennes, ces Syriens peuvent revivre ensemble, Luc Mathieu.
Oui, juste sur la question d'avant, parce que par exemple, le nouveau pouvoir, ce qu'ils ont fait pour les soldats, c'est qu'ils leur ont dit, ok, vous allez dans tel centre, on va regarder qui vous êtes, vous venez avec vos armes, vous les rendez, oui. Et vous repartez chez vous. Ce qu'ils ont fait, ce qui s'est plutôt bien passé. Après, moi, j'ai eu un cas à Alep, donc la grande ville du Nord, où il y avait un habitant un peu notable, opposant à Bachar al-Assad, mais bon, qui avait toujours réussi à se débrouiller, et qui était terrorisé, lui, vraiment, par les Mourabarats. Les Mourabarats, c'est les agents du service de renseignement. Il y en avait énormément en Syrie, notamment à Alep. Et il dit, c'est des gens qui venaient fouiller chez moi deux fois par an, parce qu'il lui avait des livres, il regardait s'il n'y avait pas des livres interdits. C'est des gens qu'on voyait dans les cafés, et il m'a dit, ces gens-là ont disparu. Je ne sais pas où ils sont, tout le monde les connaît, parce que comme ils passaient leur temps dans la rue, les restaurants, les cafés, on sait qui c'est. Ils ne sont plus là, ils ont disparu. Alors il dit, ils sont probablement en train de se cacher, et lui avait peur d'eux, parce qu'il dit, c'est des gens dangereux, c'est des gens qui savent manier les armes, c'est des gens qui sont organisés, qui ont des réseaux, qui peuvent se cacher, et qui pourront éventuellement, ou pas, on verra, à un moment ou à un autre, décider de passer à une forme d'action armée. Alors lui parlait de Bagdad avec des voitures piégées, enfin on ne sait pas. Mais il y a toute cette catégorie-là de gens des services de renseignement, qui étaient quand même omniprésents en Syrie, ils ne sont plus là. Donc ils sont bien quelque part, ils ne sont pas tous à Dubaï, ce n'est pas possible. Donc,
Robert Petit, que pensez par ailleurs des procès qui se tiennent ou qui se sont déjà tenus à l'étranger? Je pense notamment par exemple en Allemagne, en France. En France, hein, pour rappel, trois hauts responsables du régime syrien ont été jugés à la cour d'assises de Paris pour complicité de crimes contre l'humanité et délits de guerre, condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Hein, c'était le vendredi 24 mai 2024, lorsque des États européens ou d'autres États dans le monde se saisissent de ces cas syriens. Que nous enseignent
Et il nous enseigne que la justice a le bras long, hein, et qu'effectivement, nous-mêmes, on a été capables d'assister 16 juridictions dans plusieurs centaines de dossiers qui ont mené à des mandats, à des procès, à des verdicts. Et jusqu'à le 8 décembre, ça représentait pour les Syriens le seul espoir de justice. Ouais. Mais ces dossiers-là vont continuer. On va continuer à les supporter, évidemment. Et clairement, maintenant, comme on l'a dit, avec plusieurs suspects qui ne sont plus en Syrie, certainement risquent de se retrouver dans ces juridictions-là. Et ça aussi, ça va faire partie de cette espèce d'écosystème de justice. Mais je voudrais revenir aussi sur tout ce qu'on parle d'international, de ces pays, etc. C'est mon expérience que lorsque la justice, surtout pour des crimes de masse, est dispensé dans le pays, devant les survivants, et où on parle des victimes directement, c'est là qu'il y a la plus grande chance pour cette justice-là d'avoir un impact. Maintenant, cet impact-là, il fait partie d'une plus grande dynamique. Ce qui se passe dans les quatre murs d'une cour de justice, ce n'est qu'une partie de cette justice transitionnelle-là qui, effectivement, doit ultimement amener à la vérité sur ce qui s'est passé pour que tout le monde parte du même point pour rebâtir quelque chose. Donc, faut être un peu humble aussi par rapport à ce que le processus pénal peut faire. C'est essentiel, surtout pour les plus grands responsables, mais ce n'est qu'une partie de la réponse.
Je reste un instant sur ce que peut la justice française. En janvier dernier, un mandat d'arrêt pour complicité de crimes de guerre a été émis par deux juges d'instruction française à l'encontre de l'ancien président syrien Bachar el-Assad. Céline Bardella, qu'est-ce que cela peut donner ? À quoi ça sert que la justice française s'empare de cette situation et plus précisément de la situation particulière de Bachar el-Assad ?
Oui, sur la situation particulière de Bachar el-Assad, justement, c'est d'abord c'est ultra symbolique et c'est très fort. Moi, je trouve que la France ait fait ça parce que d'abord, on sait très bien que Bachar el-Assad, il est en Russie. Et je pense que c'est toujours la question à $1000 à se dire est-ce qu'un jour Bachar el-Assad sera jugé. On n'en sait rien. Mais en tout cas, ça c'est ultra symbolique et aussi ça veut dire que sur le territoire européen, parce qu'en plus on fait partie de l'Union européenne dans lequel il y a des mécanismes. Ça veut dire que sur le territoire européen, il y a commencé par la France, Bachar el-Assad, il peut être arrêté, etc. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très fort, en fait, venant de la France, qui a beaucoup marqué aussi beaucoup de Syriens. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de Syriens pour les qui sont pas naïfs du tout sur ce qu'ils vivent de toute façon déjà par rapport à la justice depuis des années, mais pour qui c'était ultra important. Et l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est qu'effectivement la justice pénale, elle a ses limites. De toute façon, elle est pas là pour, quand on parle de justice transitionnelle, parce qu'il y a les questions aussi de réparation. Qu'est-ce qui va se passer pour ces populations qui ont vécu, et encore une fois je le redis, c'est pas uniquement 14 années de conflit, c'est des années de dictature, de c'est quoi les réparations, qu'est-ce qu'on offre à ces personnes-là, la vérité bien sûr, retrouver leurs proches, quelque chose qui est très important, et aussi les réparations. Je pense aussi à ces images qu'on a tous vues aussi de ces prisons où on a vu des femmes sortir avec des enfants, on sait pertinemment que ce sont des enfants nés du viol, et je parle de ça parce que je travaille particulièrement là-dessus. Comment on fait? Donc, il y a aussi tout ce travail-là qui, effectivement, ne relève pas de la justice pénale, mais relève de plein d'acteurs, en fait. Et c'est là-dessus, moi, où je trouve que c'est le moment où on devrait travailler et travailler tous là-dessus et donc se bouger. Donc, c'est pas que je pense pas que la communauté internationale n'a pas conscience de ce qui se passe, mais en tout cas, moi, je trouve que j'ai pas l'impression que les choses, elles bougent très, très rapidement. Et je pense qu'une des raisons à cela aussi, c'est une situation beaucoup plus, j'allais dire, politique ou géopolitique, je sais pas comment l'appeler, mais on a quand même un gouvernement de transition, encore une fois, lui aussi non plus, je sais pas comment l'appeler, où on sait pas trop. Où est-ce qu'on est ? On ne sait pas trop qui on a en face de nous. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que ça se passe à peu près bien, mais on ne sait pas. Donc, il y a aussi des réticences. Il y a toute la communauté internationale, je pense, sur un plan politique et diplomatique, fait attention. Elle a raison de le faire. Mais voilà, faut avancer sur tous ces... Et l'autre chose, la compétence universelle, elle reste, va y avoir d'autres procès. Et ça, c'est important, parce qu'effectivement, on dit, c'est une toile d'araignée juridique. Et moi, je crois profondément aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus, je vais dire un peu comme ça, mais il y a beaucoup plus d'espoir, il y a beaucoup plus de choses qui se passent au niveau européen, aujourd'hui européen et même américain. D'ailleurs, c'est pas que européen, mais en compétence universelle, où on arrive à faire passer un peu de justice. Et ça, c'est important. Et que le mécanisme, justement, de documentation, et c'est bien de le rappeler aussi, parce qu'on, des fois, on peut se dire pourquoi il y a des mécanismes internationaux, on sait pas ce qu'ils font, ça coûte très cher. Par exemple, ils ont travaillé, moi j'ai travaillé sur plein de dossiers au niveau de la compétence universelle, où effectivement il y a une coopération et qu'il y a plein d'éléments de preuve qui viennent du travail de cette commission que dirige Robert Petit aujourd'hui, donc c'est extrêmement important, donc c'est ça qu'il faut continuer à faire.
Luc Mathieu, vous nous avez bien décrit la défiance latente à l'encontre de l'Organisation des Nations Unies, mais est-ce que les Syriennes, les Syriens que vous avez rencontrés attendent quelque chose tout de même de la justice internationale ? Est-ce qu'ils vous en parlent ? Est-ce que c'est un sujet qu'ils abordent spontanément ?
Non, parce que là encore, c'était plutôt soit on va le juger nous-mêmes, et ils parlent de Bachar el-Assad, certains de la famille al-Assad, soit Dieu le jugera assez régulièrement. Et sur l'international, c'est plutôt vous avez rien fait. Donc on n'attend plus rien de vous. Je veux dire, quand l'envoyé spécial de l'ONU va à Sednaya, ça a créé une petite émeute, quoi. Il s'est pris une chaussure sur la tête. Parce que les familles étaient excédées. Donc ils disaient, mais qu'est-ce que vous venez de faire là, maintenant, alors que vous avez rien fait. Donc, mais ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment les familles de disparus. C'est pas forcément un sentiment qui est à l'identique dans toute la population. Hein. Mais la population syrienne, elle est vraiment épuisée. J'ai rarement vu un tel niveau de, d'épuisement, de pauvreté, de tout est à reconstruire. On parle en centaines de milliards de dollars de reconstruction. Donc, il y a un tel fardeau général que, effectivement, la justice en est un. Et, mais ils vont pas parler, franchement, de l'ONU. Enfin, c'est pas leur problème. C'est pas l'urgence.
Robert Petit, est-ce que vous-même, au quotidien, quand vous rencontrez des Syriennes, des Syriens, vous mesurez cette défiance ou peut-être aussi ce détachement quant à la justice internationale, vous qui êtes chef du mécanisme international impartial et indépendant?
Je pense que le mécanisme s'est taillé une place particulière depuis 2016 et on bénéficie d'une relation privilégiée avec beaucoup de représentants de la société civile, beaucoup de Syriens et Syriennes, parce qu'ils sont bien conscients que même si effectivement on est relié aux Nations Unies, on a été créé par l'Assemblée générale, par 104 États, qui ont voté pour créer ce mécanisme qui n'a pas de durée, qui n'a pas de finalité. On a un mandat ouvert et qui, depuis, 2016, a réussi à faire beaucoup de travail pour soutenir effectivement la justice dans ces juridictions compétentes et pour qui a contribué de manière concrète, comme l'a dit Céline, et aussi pour bâtir de ces dossiers en attente d'une justice plus compréhensible. Donc, je pense que notre rôle, il est relativement bien compris, certainement pour les organisations et les Syriens et Syriens en dehors de la Syrie. Maintenant, il y a un travail, évidemment, de sensibilisation à faire, qui reste à faire, qui ne pouvait pas être fait, mais qui va être fait, je l'espère, auprès des Syriens à l'intérieur du pays. Mais je pense que le rôle, il est bien compris et il est essentiel aussi.
D'un mot, Robert Petit, quelles sont pour vous et pour le mécanisme les prochaines étapes?
Dès qu'on va avoir l'autorisation des autorités transitoires que l'on a présenté le 21 décembre et qu'on a renouvelé le 14 janvier, de se rendre sur le terrain et de commencer la préservation et les enquêtes, on va le faire avec l'espoir que bientôt on va avoir une présence stable en Syrie et qu'on pourra aussi participer à un processus de justice transitionnelle compétent qui nous permettra d'aider les Syriens dans ce processus.
Merci beaucoup à tous les droits de cette discussion. Robert Petit, je rappelle que vous êtes chef du mécanisme international impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes et de recueillir les preuves des violations les plus graves du droit international en Syrie. Céline Bardet, vous êtes juriste, enquêtrice criminelle internationale, vous êtes spécialiste des crimes de guerre, fondatrice, directrice également de l'ONG We Are Not Weapons for War. Et Luc Mathieu, vous êtes reporter à Libération, prix Albert Londres 2015 pour votre série d'articles sur le djihad réalisé en Syrie, en Irak et au Kurdistan. Merci à tous les trois d'être venus ce soir. Merci. À Question du soir. Merci.